Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans le chapitre 18. On va lire tout le chapitre, les versets 1 à 21. Chapitre 18, 1 à 21. Bildad de Shuach prit la parole et dit, « Quand mettrez-vous un terme à ces discours? Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes? Pourquoi ne sommes-nous pas vos yeux que des brutes? Ô toi qui te déchires dans ta fureur, faut-il, à cause de toi, que la terre devienne déserte? Faut-il que les rochers disparaissent de leur place? La lumière du méchant s'éteindra, et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente, et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit. Malgré ses efforts, il tombera, car il met les pieds sur un filet. Il marche dans les mailles, il est saisi au piège par le talon, et le filet s'empare de lui. Le cordeau est caché dans la terre, et la trappe est sur son sentier. Des terreurs l'assiègent, l'entourent, le poursuivent par derrière. La faim consume ses forces, la misère est à ses côtés. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées, ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Il en est arraché de sa tente où il se croyait en sécurité. Il se traîne vers le roi des épouvantements. Nul des siens n'habite sa tente. Le soufre est répandu sur sa demeure. En bas, ses racines se dessèchent. En haut, ses branches sont coupées. Sa mémoire disparaît de la terre. Son nom n'est plus sur la surface des champs, sur la face des champs. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres. Il est chassé du monde. Il ne laisse ni descendants, ni postérité parmi son peuple, ni survivants dans les lieux qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine et la génération présente sera saisie d'effroi. Point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Alors, on va demander au Seigneur de bénir notre étude de ce chapitre-là. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons à ta sainte présence. Nous sommes tes enfants. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour entendre ta parole. Donne-nous, Seigneur, de prendre conscience que lorsqu'on vient à un culte, c'est vraiment un moment où tu veux t'adresser personnellement à chacun de ceux qui sont présents pour leur enseigner quelque chose, pour transformer quelque chose dans leur vie. Alors, Seigneur, on demande que ton esprit soit présent avec nous aujourd'hui, qu'il se manifeste de façon puissante, que nos cœurs soient ouverts, que notre intelligence soit ouverte à la réception de ta parole, à sa compréhension et surtout, Seigneur, à son application dans notre vie de tous les jours. C'est la grâce que nous te demandons ce matin en Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Les trois armes de Bildad » dans son attaque furieuse contre Job. On a vu depuis le début que le livre de Job est composé de trois cycles, on appelle ça des cycles de discours. Donc le premier cycle, on l'a terminé. Le premier cycle, ça commençait, bon, on sait le début, là, il perd tous ses biens, sa famille est morte, excepté sa femme, et il devient malade au point où que là, il est désespéré. Ses trois amis viennent le rencontrer. Et leur but, bien entendu, c'est d'essayer de l'encourager, d'essayer de lui amener du réconfort. Alors, on a vu que dans le chapitre 4 ou 5, le premier cycle, quand on dit un cycle, c'est que les trois amis viennent un arrière de l'autre et disent quelque chose et Job répond. Alors, c'est la structure. Alors, Eliphaz, dans le chapitre 4 et 5, il donne son appréciation, pourquoi il pense que Job vit ce qu'il vit présentement. Et dans le chapitre 6 et 7, Job réplique, il répond. Après ça, on a Bildad, qui est un autre ami, le deuxième ami. Lui, c'est dans le chapitre 8 qui fait ses remarques. Et la réplique de Job vient dans le chapitre 9 et 10. Et le troisième ami s'appelle Tsophar. Lui, dans le chapitre 11, il fait ses remarques. Et Job réplique dans le chapitre 12 à 14. Là, on tombe dans le deuxième cycle. Pourquoi on appelle ça un deuxième cycle? Parce qu'on reprend les mêmes trois personnages qui reviennent et qui refont un autre discours. C'est ça qu'on appelle ça le deuxième siècle, parce que là, on revient à Éliphaz, le premier qu'on avait vu. Après ça, il y avait Bildad, après ça, il y avait Tsophar. Le deuxième siècle, donc, dans Éliphaz, c'était le chapitre 15 qui était revenu pour donner ses explications à Job. Et on avait eu la réplique de Job dans les chapitres 16 et 17. La semaine dernière, on était rendu là. Alors, on était rendu à la fin du chapitre 17. Et là, on voit le deuxième personnage qui revient, Bildad. Et on a vu, la première fois qu'on a étudié, Bildad est particulièrement agressif. Pourquoi est agressif? Parce que son idée, sa compréhension, sa théologie de la souffrance est mauvaise. Mais il ne le sait pas. Alors, lui, il veut absolument que Job comprenne que si t'arrives, si t'es malade, si t'as perdu tes enfants, si t'as perdu ta propriété, c'est parce que tu vis dans le péché. Il veut lui faire accepter ça. Et Job, vu qu'il n'a jamais, il s'est jamais volontairement éloigné du Seigneur, il a toujours été intègre et droit. C'était le jugement même du Seigneur quand il a dit « Mon serviteur Job est intègre et droit ». Et lui avait senti qu'il s'était jamais éloigné de ça. Alors, quand ses amis veulent lui faire porter l'odieux du fardeau, que s'il est dans cet état-là, c'est parce qu'il est pécheur, il ne l'accepte pas. Mais là, on est rendu au deuxième cycle, parce que là, les trois ont donné leur... ont cherché à convaincre Job que la cause de son malheur, c'était le péché. Ils n'ont pas réussi. Et là, Bildad, il a entendu Éliphaz la semaine passée, et Job a encore répliqué avec son innocence. Et là, Bildad, pourquoi j'ai intitulé ça « Les trois armes de Bildad dans son attaque furieuse contre Job », c'est qu'il est littéralement furieux de voir que Job n'accepte pas leur compréhension de la chose et utilise trois armes. On va les regarder. Alors, au cours des semaines suivantes, on va revenir sur la question des cycles, parce que c'est toujours la même affaire. Ça va commencer par Éliphaz, Bildad, troisième Tsophar. Il va y avoir un deuxième cycle, Éliphaz, Bildad, Tsophar. Il va y avoir un troisième cycle, Éliphaz, Bildad, Tsophar. C'est important de le voir, parce que dans le fond, c'est des personnages qui ont déjà fait des remarques à Job, mais qui reviennent. Mais quand ils reviennent, souvent, c'est avec une plus grande agressivité. C'est le cas cette semaine. Alors, il utilise, Bildad va utiliser trois armes et son attaque envers Job va être vraiment furieuse. Alors, Bildad entreprend dans le chapitre 18 son deuxième discours pour convaincre Job qu'il est un pécheur invétéré, qu'il est un hypocrite, qu'il mérite son sort et qu'il est un être présomptueux d'oser demander à Dieu d'être le juge dans ce qu'il vit. Parce que c'est ça qu'a fait Job, il dit, vous autres, vous êtes des consolateurs fâcheux, au lieu de m'encourager, vous alourdissez ma peine. Alors, il avait dit dans les chapitres précédents, mais moi, je n'ai pas d'autre solution que de demander au Seigneur lui-même de juger dans tout cela. Alors, lui, il trouve que le fait que Job demande cela à Dieu, il trouve que c'est présomptueux. Et il est littéralement furieux et il va attaquer Job avec plus de véhémence et d'agressivité. C'est de valeur qu'on n'ait pas le temps parce que si on pourrait faire retourner dans la première fois que Bildad a fait des remarques à Job, on pourrait voir que dans le fond, il y a une escalade dans sa façon de présenter les choses qui est plus agressif. Alors, ses propos sont littéralement vitrioliques. Vous savez ce que c'est, vitriolique? Si on ça vient du mot vitriol. Quand on voulait défigurer quelqu'un en ancien temps, ben ça se voit encore aujourd'hui. Là, on prend de l'acide sulfurique ou n'importe quoi, on envoie ça dans la face de la personne, et là, c'est sûr que les chairs fondent, et c'est vraiment pas drôle. Et ici, psychologiquement, les propos de Bildad sont vitrioliques. Véritablement, il veut vraiment là, que Job comprenne Alors, ils sont animés, quand on analyse comme il faut le texte, on voit que ses propos sont animés par la passion. Ils sont animés aussi par une perte complète de la maîtrise de soi. Les Écritures, quand on parle de la maîtrise de soi,
Il y a un passage d'un proverbe qui dit que l'homme qui se contrôle lui-même est plus fort que celui qui conquiert une ville. À l'époque, on sait que c'est conquérir une ville qui avait des murailles autour. Il dit l'homme qui se maîtrise lui-même est plus fort qu'un commandant qui va aller... Alors, la maîtrise de soi, la Bible en parle souvent. On se devrait, peu importe les circonstances. Autrement dit, lui, il avait tellement la conviction qu'il avait raison que quelqu'un qui s'opposait à lui, comme Job, pour lui, là, il était vraiment irrité au maximum et il utilise un langage qui dépasse. Alors, il est dépourvu de calme, il est dépourvu de sagesse, dépourvu de sympathie. Il a fort probablement pas apprécié que lui et ses deux autres amis, Job les ait qualifiés de consolateurs fâcheux. Et il leur avait fait aussi d'autres reproches. Alors, il va utiliser des armes ici puissantes pour tenter de venir à bout de l'obstination de Job à proclamer son intégrité face à Dieu. Quand on analyse le texte, on se rend compte que ce que Bildad dit, c'est pas complètement faux. Parce qu'il y a des choses qu'il dit là-dedans, contre les méchants, que Dieu peut servir pour certains individus et qui sont vrais. Mais ce que le texte veut nous démontrer, c'est que les mots qu'il utilise peuvent être vrais pour des méchants, mais qu'ils ne sont pas vrais pour le cas de Job. Alors, des fois, des vérités, s'ils ne sont pas utilisés avec sagesse, peuvent être mauvaises. Alors, pourquoi on peut savoir que l'ensemble des choses que des trois amis de Job qui ont tenté de consoler Job sont mauvaises? Tout simplement parce que Dieu le dit lui-même dans sa parole, dans le chapitre 42, au verset 7. Il dit la phrase suivante. C'est, je dirais, extrêmement important de regarder le jugement que Dieu porte sur les tentatives de consolation des amis de Job. Sans ça, on a de la difficulté à suivre le texte, on a de la difficulté à comprendre pourquoi des choses qui nous semblent vraies dans le texte, pourquoi Dieu dit que c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça s'applique pas à Job. C'est pour ça que c'est pas bon. Alors, dans Job 42, verset 7, « Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job », on sait que le chapitre 42, c'est quand l'Éternel parle à Job et qu'il lui dit « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Où étais-tu quand j'ai fait ci, quand j'ai fait ça? » Autrement dit, il ne répond pas au pourquoi il a envoyé ces épreuves-là dans sa vie. Il fait simplement lui poser des questions pour l'amener à s'humilier, à reconnaître que « Non, j'essaie de m'occuper des choses qui sont trop grandes pour moi. » Et là, Dieu lui dit « Après que l'Éternel lui ait adressé ses paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman. » Voyez-vous, il ne s'adresse pas au plus jeune, il y en a trois. À cette époque-là, c'était toujours le plus vieux qui avait le droit de regard, le droit de parler en premier. Et regardez, Dieu ne s'adresse pas aux trois, il ne dit pas aux trois, il dit à Éliphaz de Théman, donc l'aîné. Pour les orientaux, l'aîné, c'est toujours celui qui avait le droit de parole en premier. Et il s'adresse à lui en particulier. Il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi comme avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » Ici, on a le jugement de Dieu sur l'ensemble des interventions ou des tentatives de consolation de ces personnages-là face à Job. Dieu dit, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Et il va plus loin que ça, il dit, ma colère est enflammée contre vous. Autrement dit, vous avez parlé à travers votre chapeau. Et si on lit ces textes-là, puis qu'on ne retire pas des leçons dans notre propre vie, dans la manière dont on s'adresse aux autres, des fois dans nos tentatives de consolation, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce texte-là. C'est que des fois, en voulant faire le bien, on peut faire des gaffes monumentales. Monumentales. C'est ça que le texte nous apprend. Alors, la première arme, on a dit qu'il utilisait trois armes dans son attaque furieuse contre Job. C'est quoi la première arme? C'est celle de la réprobation. La réprobation, le dictionnaire définit ça comme une désapprobation vive et sévère. Mais le dictionnaire indique aussi que c'est un mot qui est plus fort que la désapprobation parce qu'il implique une condamnation absolue de quelque chose qui paraît odieux. C'est quoi quelque chose qui est odieux? Quelque chose qui excite la haine, quelque chose qui excite le dégoût, quelque chose qui amène de l'indignation. Alors, ici, quand on dit qu'il utilise l'arme de la réprobation, c'est plus que de la désapprobation de toutes les choses que Job avait dit. Job avait donné des répliques, mais il est en train de dire, je fais plus que désapprouver de ce que tu dis. Il dit, c'est de la réprobation, donc c'est vraiment vive une désapprobation vive et sévère, et ça implique une condamnation absolue de tout ce qu'il dit. Autrement dit, c'est comme s'il avait dit à Job, « Tout ton pétage de broue, là, ça vaut pas rien du tout. » Hey, c'est assez sévère. Comme... Autrement dit, dans l'ensemble, si vous prenez l'ensemble des réponses de Job, vous les analysez, est-ce que vous pouvez dire que tout ce que Job a dit est complètement déconnecté? Non. Il a dit des choses intelligentes. Mais parfois, dans son jugement aux trois amis, aux trois consolateurs, dans son jugement, parfois, il était dur un peu. Il utilisait des mots qui manquaient peut-être un petit peu de sagesse. Alors, c'est pour ça que notre ami Bildad est complètement enragé. Et là, il veut y taper dessus, comme on dit. Alors, le discours ici de Bildad, il va s'abattre sur Job comme un véritable ouragan. Il est d'humeur massacrante et va planter d'autres poignards dans le cœur de Job. Ces accusations sont graves et nombreuses. Quelles sont-elles, ces accusations? Versets 1 et 2, une accusation de verbiage. Qu'est-ce que c'est du verbiage? Du verbiage, c'est l'abondance de paroles, de mots vides de sens, de mots insensés ou de mots qui disent peu de choses. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce qu'il dit, dans le verset 1 et 2, Bildad de Shuach prit la parole et dit, « Quand mettrez-vous un terme à ces discours? Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. » Il est en train de dire, autrement dit, tout ce que tu as répliqué à nos tentatives de consolation, c'est vide de sens, ça, c'est du verbiage, des paroles en l'air. Tu parles pour rien dire, autrement dit. Il va y faire une autre accusation dans le verset 3, et c'est l'accusation de mépris. Il va dire... « Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes? » De qui il parle, là, quand il dit « Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes? » Les trois consolateurs. Il dit « Pourquoi tu nous regardes comme si on était des animaux? » Comme on ne comprend rien à ce qui se passe dans ta vie. Il dit « Pourquoi ne sommes-nous pas à vos yeux que des brutes? » Il est en train de dire « Ce que tu nous as accusé, tu es en train de nous dire qu'on n'est pas mieux qu'un animal puis qu'on n'est pas mieux qu'une brute. On ne comprend rien, nous autres. Ah non! » Toi, tu comprends tout, mais nous, on ne comprend rien. Il n'est pas de bonne humeur. Il n'a fort probablement pas apprécié la remarque de Job dans la réponse qu'il avait donnée à Éliphaz dans Job 17, la semaine dernière. Quand il avait dit, il parlait à Dieu, il dit, « Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence. » Oui, il parle d'intelligence. Alors, il dit, nous, pourquoi on est comme des bêtes, on est comme des brutes? Parce que la semaine dernière, Job avait répondu à Éliphaz, « Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence. » Il est en train de parler des trois amis, puis il dit, « Dieu a fermé le cœur à l'intelligence de ces trois personnes-là. » Imagine-toi, tu reçois ça, tu veux essayer d'aider quelqu'un, puis quelqu'un dit, « T'as pas aucune intelligence. » Wow, c'est fort. Alors, Job avait utilisé des mots forts un peu, mais ça revient un petit peu, là. On a ici un exemple que le langage peut déraper dangereusement lorsque nos émotions sont à fleur de peau. Ça, c'est une leçon morale du livre, je dirais. Qui d'entre nous n'a pas déjà ressenti cela des fois? Quand on est attaqué dans quelque chose qu'on n'aime pas, puis on vient, nos émotions viennent à fleur de peau, et la personne nous dit quelque chose qui nous déplaît, qui n'a peut-être pas été très habile dans sa façon de l'amener. Quand on parle de dérapage, c'est que l'escalade qui suit ça. Est-ce qu'on n'a pas déjà tout vécu ça? Je pense que le texte nous montre vraiment que quand on est dérangé émotivement, le dérapage verbal, il peut devenir très rapide et très dangereux aussi. Alors, quand il dit « Est-ce que Job les avait déjà accusés d'être des bêtes ou d'être des brutes? » dans les textes qu'on a vus dans les semaines dernières. Jamais Job leur a dit ça. Mais le mot « dire à quelqu'un « Dieu a fermé ton cœur à l'intelligence », c'est, ça laisse sous-entendre des choses. Et c'est ça qu'il n'a pas aimé. Coudon, tu me prends-tu pour un animal? Tu prends-tu que je n'ai rien compris de ce que tu vis? Alors, il sent... on voit que Bildad glisse dans ce qu'on pourrait appeler l'enflure du langage. Est-ce que on ne connaît pas tout ça, l'enflure du langage? Moi, ça m'est déjà arrivé. Quand on est émotivement dérangé par une remarque de quelqu'un, avez-vous remarqué que c'est rare qu'on reçoit un reproche intelligemment? Souvent, on va dire « Pitoui! » Et puis là, on en rajoute, puis des fois, on rajoute quelque chose de plus fort encore, comme pour « Tu m'as blessé, mais moi aussi, m'a blessé encore plus que toi. » C'est ça l'escalade. Puis c'est un danger réel dans la vie du chrétien. Puis je pense que le texte, c'est ça qui nous montre. L'enflure du langage. Si on ne fait pas attention, quand on est déstabilisé du point de vue émotif, on peut faire des bêtises. Il se sent attaqué et il veut contre-attaquer. Je me souviens quand j'étais, il y a quelques années, quelqu'un que je connaissais qui était un criminel. Et j'avais des fois des discussions avec. Puis lui, sa phrase qu'il utilisait souvent, « Ah, méchant, méchant ennemi. » Alors, c'est ça qu'il voulait dire. Quand quelqu'un est méchant envers moi, moi, je suis méchant et demi. J'en remets 50% de plus. Alors, méchant, méchant ennemi, il faut faire attention à ça. Alors, il se sent attaqué, il veut contre-attaquer. L'escalade dans l'insulte guette l'âme de celui qui se sent méprisé. Oui, il se sentait méprisé par Job. Et il y a une tentative, il y a comme une possibilité qui glisse. Et il va plus loin que ça. Donc, il l'a accusé de verbiage. Autrement dit, tu parles, tes paroles, c'est rien que du vent. Il l'a accusé de mépris. Tu nous méprises, tu nous prends pour des animaux. Et après ça, il nous dit, il l'accuse de rage. Si on verrait un film de quelqu'un qui est vraiment pris par la rage, alors il dit « Ô toi qui te déchire dans ta fureur ». C'est le langage. Lui-même est en fureur puis est en train de dire à Job qu'il se déchire lui-même à cause de sa colère. Bildad est en train d'accuser Job de rage maniaque, de folie passagère et de colère excessive. N'est-ce pas que quand on fait une vraie colère, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, moi, on est déjà fait. Quand on choque, mais véritablement choqué, qu'on perd les pédales, n'est-ce pas que durant cette petite période de temps-là, on est un peu fou? Hein? Moi, j'ai déjà fait des choses quand je suis en colère, là, qu'aujourd'hui, quand je pense à ça, je me dis, tu joues insignifiant pour avoir fait ça. La colère est mauvaise conseillère. Il est en train de dire à Job, tu es tellement choqué de ce qu'on t'a dit, de la tentative de te ramener à la repentance, que tu te déchires toi-même, tu es furieux, tu as comme un moment de folie passagère. Alors, Bildad accuse justement Job de rage maniaque. Et il ne termine pas là, parce que dans le verset 4b, la dernière partie du verset, et là, il l'accuse de quelque chose d'encore plus grave. Il l'accuse de présomption. Il dit, « Faut-il, à cause de toi, que la terre devienne déserte? Faut-il que les rochers disparaissent de leur place? » Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'accuser Job de demander à Dieu de suspendre sa loi, de suspendre son gouvernement envers les hommes pour s'accommoder de sa souffrance. C'est comme s'il comprend que Job est en train de dire à Dieu, ben là, on pourra-tu changer les lois du ciel? On pourra-tu changer les lois? De quelle façon tu administres pour t'occuper de moi? Et lui est tellement convaincu qu'il vit toutes ces choses-là à cause du péché, qu'il est en train de penser que Job, en voulant s'adresser à Dieu, c'est comme s'il demandait à Dieu de suspendre la façon dont il agit envers les hommes, sa loi morale ou son gouvernement. Alors, il n'accepte pas que Job ne se résigne pas à ce que lui considère que Job mérite. est-ce que Dieu... Il n'approuve pas que Job considère que Dieu est trop sévère à son égard. Bildad croit que Job pêche orgueilleusement et présomptueusement en demandant d'être jugé par Dieu lui-même. Dans les semaines dernières, c'est ça qu'on avait vu. Job avait dit, vous êtes des consolateurs fâcheux. Je n'ai pas d'autre choix que de me présenter devant Dieu et dire au Seigneur, tu sais que je n'ai pas fait d'écart face à ta loi dans ma vie, ma marche, mon intégrité dans ma marche chrétienne. Tu sais, il demandait, il dit, vu que mes amis ne sont pas capables d'intelligence, il voulait se présenter devant Dieu pour obtenir ça. Et Bildad, lui, prend pas ça du tout. Il considère ça comme étant vraiment de la présomption. Mais qu'est-ce qui amène Bildad à être si sévère envers Job? C'est qu'il est complètement aveuglé par son préjugé théologique. Est-ce que ça nous apprend qu'on peut en avoir des préjugés théologiques? Ben oui, on peut en avoir. Puis quand on en a, puis qu'on n'est pas ouvert à examiner si c'est pas un préjugé, vois-tu, Job les a dit aux trois amis, si on reculerait d'un chapitre passé, là, Job a dit, « Je ne suis pas une vie de péché. » Ils ne croient pas. Leurs préjugés théologiques les aveuglent complètement. Si tu es dans le malheur, c'est parce que tu vis dans le péché. Et pour lui, là, c'est comme s'il y avait... Et que Job dise la vérité ou non, pour lui, ça passe pas. Est-ce qu'il n'y a pas une leçon pour nous aujourd'hui là-dedans aussi? Faire attention que nos préjugés théologiques deviennent des barrières de communication. Même si l'autre te dit « je te dis », on est dans un an, on ferme les oreilles, on veut même rien entendre. Alors, il est complètement aveuglé par son préjugé théologique. Et ce préjugé-là, on l'a vu, c'est que tout homme juste est béni et que tout homme pécheur reçoit sa rétribution dans cette vie. Est-ce qu'il y a de la vérité là-dedans? Oui. Est-ce que la vérité s'applique toujours? Parce qu'on le voit aujourd'hui, il peut y avoir des hommes qui ont été des criminels toute leur vie sur la terre. Ils peuvent recevoir des choses désagréables dans leur vie. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu va leur faire subir des souffrances ou des douleurs durant toute leur vie terrestre? Des fois, la rétribution, elle vient dans l'éternité. Dieu dit, tu ne te sauveras pas d'aucun péché. Mais les trois amis de Job, eux autres, sont convaincus que le péché et la rétribution, c'est sa terre. Alors, il dit, si t'es de même, t'as plus d'enfant, t'as perdu tous tes biens, t'as perdu ton prestige, t'as perdu le respect de tout le monde, t'es pauvre, t'es malade, mais c'est parce que t'as péché, voyons donc, à vouler. C'est ça qu'il cherche à y faire comprendre. Mais lui, vu qu'il l'a pas fait, bien, il s'acharne à dire non. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire dans le verset 5 à 14? Il va vouloir convaincre Job que Dieu punit toujours le péché temporellement. Autrement dit, que Dieu punit toujours le péché sur la terre. Et que sa situation est le fruit de la punition de Dieu sur ses péchés. Il veut peindre un tableau sombre de l'état du pécheur en rébellion contre Dieu. Autrement dit, tu es en train de lui dire ce que tu vis dans toutes ces dimensions. C'est à cause que tu es dans le péché, parce que Dieu juge ceux qui font du péché et il les juge dès cette terre. Et là, c'est comme s'il dit, « Ben, regarde-toi! T'as plus d'argent, tes enfants sont morts, t'as perdu ta maison, t'as tout perdu, t'as perdu ta dignité, t'as perdu tout. Puis tu veux pas reconnaître que t'es pécheur. » Alors là, il veut lui montrer que ce que Dieu fait, il rétribue le pécheur sur la terre. Dans le verset 6, 5 et 6, il dit, « La lumière du méchant s'éteindra et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. » Alors, si vous regardez comme il faut dans l'ensemble, il parle beaucoup de lumière et d'obscurité. Il parle beaucoup de briller et de s'éteindre. Alors, il est en train de dire que le méchant sur la terre est toujours rétribué par le malheur. Alors, les expressions sur la lumière, la flamme et la lampe sont utilisées pour démontrer que le pécheur qui s'obstine et s'enfonce dans son péché sera privé de bonheur, de prospérité et de joie, de quelque nature qu'il soit, que ce soit des joies personnelles, familiales, sociales, économiques, spirituelles. Il est en train de vouloir démontrer à Job que c'est ça qui arrive aux personnes qui s'enfoncent et qui se maintiennent dans le péché. Dans les versets 7 à 10, il va dire le pécheur, donc il parle de lui, il parle de Job. Non pas que Job n'avait pas fait de péché. Job n'a jamais dit qu'il n'était pas pécheur, qu'il n'avait jamais fait de péché depuis que le Seigneur lui a envoyé une épreuve. Il en avait des péchés dans sa vie, comme dans tout pécheur, dans tout homme juste. Mais ce n'était pas le fil conducteur de sa vie. Alors, dans le verset 7 à 10, il veut lui dire qu'il va être rétribué par la calamité. Si on prend un dictionnaire et on regarde, c'est quoi ça veut dire calamité? C'est un grand malheur public. Calamité, c'est un grand malheur public. Alors, est-ce que la punition, ce qui semblait une punition de Job, est-ce que c'était public? On disait de Job qu'il était le plus connu de tous les riches d'Orient. C'était public, là. Il était rendu qu'il n'y avait plus rien pour ses enfants. Alors, un désastre, une catastrophe, un fléau. Ça peut être aussi une grande infortune personnelle. Est-ce que les Écritures nous disent que on peut recevoir de la rétribution sur cette terre comme croyant? Oui, dans Galates 6, versets 7 et 8, ça dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Alors, ça existe, le phénomène de la rétribution. Si vous prenez les Écritures, à partir de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, puis vous regardez le nombre de fois que le Seigneur a jugé quelqu'un, la rétribution, c'est, autrement dit, faire payer une personne par une punition qui est reliée avec son péché. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, il y avait un roi que quand il conquérait les gens, il lui coupait les pouces. Il lui coupait les gros orteils du pied. Quelqu'un qui est organisé comme ça, sa capacité de préhension, tu n'as plus de pouce, puis tu n'as plus de... Le gros orteil, ça, apparemment, c'est ce qui nous empêche de tomber, l'équilibre. Alors, il leur enlevait l'équilibre, puis il leur enlevait la préhension, du moins une grosse partie de leur préhension. Puis ces gens-là allaient manger sous sa table. Quand il s'est fait prendre lui-même, qu'est-ce que le Seigneur a permis qu'il arrive dans sa vie? Qu'il se fasse couper les pouces et les orteils. Voyez-vous, la loi de la rétribution, t'es puni par là où t'as péché. Mais ici, Bildad cherche à démontrer que ce qui t'arrive, c'est à cause de ton péché, mais ce n'est pas vrai. Alors, c'est ça. Alors, Bildad veut, dans le verset 7 à 10, il dit « Ses pas assurés seront à l'étroit. Malgré ses efforts, il tombera, car il met les pieds sur un filet. Il marche dans les mailles. Il est saisi au piège par le talon. Et le filet s'empare de lui. Le cordeau est caché dans la terre et la trappe est sur son sentier. » Voyez-vous le nombre de choses là-dedans? On parle de filet. On parle de mailles. On parle de piège. On parle de trappe. Autrement dit, qu'est-ce qu'il veut être en train de lui montrer? La calamité, c'est quelque chose qui arrive quand on s'en attend pas. Est-ce qu'on n'a pas des démonstrations de ça actuellement, de ce qui se passe avec la commission Charbonneau? On a des criminels qui sont en relation avec les gouvernements municipaux, ou bien non provinciaux, ou bien non fédérales. Ils obtiennent des contrats. Et tout va bien pendant des années. Ils ont des immenses yachts, ils mènent des vies de milliardaires, puis d'un moment donné, il arrive de quoi? Pouf! D'un moment donné, ils sont poursuivis par la police, ils sont poursuivis par... Voyez-vous, c'est vraiment l'équivalent de quelqu'un qui marche, puis qui se tombe, il se met les pieds dans un filet, puis il est pogné dedans. Ça arrive soudainement. C'est une... Alors, vraiment, Bildad veut rappeler à Job qu'un homme qui se voit enlever son pouvoir, ses biens, sa santé, sa dignité ne peut être qu'un homme pécheur endurci. Il insiste également pour lui faire voir le côté imprévisible, soudain et irréversible de sa chute. On m'en dit, regarde, fort probablement que tu étais riche avant, là, mais regarde, là, tu ne l'es plus, tu t'es fait pour rien dans le piège, du péché, tu es tombé dedans. Alors, il utilise des mots comme filet, piège et trappe. Ici, on vit en Abitibi, il y en a qui connaissent ça, la trappe. L'animal, quand il se promène, là, il ne sait pas là, qu'il va se mettre le pied là. Il va essayer de manger quelque chose qui est sur un dessus d'un piège, puis peut-être là, il s'en attend pas. Mais le méchant, ce que les Écritures sont en train de nous montrer, c'est que la même chose peut lui arriver. Il ne s'en attend pas du tout, et du jour au lendemain, le jugement tombe sur lui de façon soudaine, de façon imprévisible, et aussi de façon irréversible. L'animal qui se met la patte dans un piège, comment qu'il essaiera de se sauver de là, il s'en sortira pas. La même chose pour ceux qui sont pris dans un piège. Alors, versets 11 et 12 nous parlent de d'autres choses. Qui va être rétribué sur la terre, le pécheur endurci, par la terreur et la misère. Il dit des terreurs. Là, remarquez le mot au pluriel. Il ne dit pas une terreur l'assaille. Des terreurs l'assiègent. Assiéger une ville, c'est quoi? L'attaquer avec beaucoup de force. Assiéger. Les terreurs vont l'assiéger, vont l'entourer, vont le poursuivre par derrière. Autrement dit, tu es en train de dire, tu vas être malheureux, là. Et il dit, la faim consume ses forces, la misère est à ses côtés. Bildad rappelle à Job que les grands pécheurs sont souvent obsédés et dominés par les remords. Semble-t-il qu'il y a des policiers, ceux qui ont été longtemps dans la police, des fois, ils reçoivent quelqu'un qui se présente à leur bureau, ça fait 20 ans qu'ils ont fait un crime, et il n'y a rien qui les oblige à se dénoncer eux-mêmes. Ils se présentent comme ça puis ils disent, « Vous savez, vous avez 20 ans, il y a telle affaire que vous l'avez jamais trouvée, là. Ben, je viens m'accuser que c'est moi qui l'ai fait. » Pourquoi il fait ça? Le poids de la conscience, le remords. Alors, c'est ça qu'il est en train de dire, le pécheur va être dominé, va être terrorisé, il va avoir des choses, le poids de sa conscience va être très grand. Alors, il va avoir des tortures de conscience. Et il nous dit que toutes ces souffrances-là vont éventuellement le mener à la disette et à la misère, tant physique que morale, parce que là, il dit, la misère est à ses côtés. Autre chose, là, il va aller plus loin. Quand on dit qu'il est en train de vouloir taper le clou sur Job, à verset 13, là, il va y parler de maladie. Il va dire, les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Ses membres seront dévorés par le premier-né de la mort. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la leçon qu'on avait regardée, qu'est-ce que les commentateurs disent que la maladie de Job pouvait probablement être. On parle de l'éléphantiasis ou on parle de qu'est-ce qu'il appelait le liontiasis. On a vu des diapositives, vous les avez montrées. Le liontiasis, ça lui donnait un genre de tête, c'est vraiment affreux, là. Et il y a plusieurs aussi qui pensent que c'était une forme de lèpre. Je ne sais pas si vous avez déjà... Moi, j'avais déjà fait une étude sur Lévitique. Et il parle beaucoup de lèpre là-dedans. Hein? Il parle de la peau, regarde, c'est de la lèpre, regarde, c'est d'autres choses. J'avais été voir sur Internet, j'avais fouillé beaucoup pour trouver des images de lépreux. Quand il dit ici... Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Bien, on voit des illustrations que vraiment la peau, des fois les joues le creusent, les morceaux de peau sont enlevés, on le voit les os. C'est épouvantablement dur des images de lèpre, regardez ça. Et je comprends qu'à l'époque de Jésus-Christ, les lépreux étaient comme exclus de la société et ont toujours été comme tenus à part. Parce que ça faisait terriblement peur au monde. Puis en plus, c'était des maladies qui étaient, tu vois, les contagieuses. Alors, c'est ça qu'il est en train de dire, que celui qui s'enracine dans le péché, qui s'endurcit dans le péché, il va éventuellement subir des maladies semblables à ça.
Et, verset 14, là, il lâche pas. Voyez-vous, il y a une progression dans son affaire. Hein? Le malheur, la calamité, la terreur, la misère, la maladie. Et là, verset 14, il évoque le dessert. Il dit, « Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté. Il se traîne vers le roi des épouvantements. » Il y a quelque chose d'intéressant sur l'expression « le roi des épouvantements ». Le roi des épouvantements, ça, c'est la version Louis Sagan qui traduit comme ça. Maintenant, si vous prenez le même verset, vous allez voir dans Darby. Je vais vous la lire dans Darby. Il dit « Ce qui faisait sa confiance est arraché de sa tente. Il est forcé de marcher vers le roi des terreurs. » Autrement dit, la mort est considéré comme le roi des choses qui font le plus peur à l'être humain. Je me souviens d'avoir entendu une femme à télévision, qui est bien connue, une écrivaine, et elle disait, « Pour moi, là, la mort, ça me terrorise. Juste de penser que je vais arrêter de vivre, puis je suis pas sûr où est-ce que je m'en vais après, ça la terrorisait littéralement. » Et c'est vrai. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les Écritures, il y a un endroit où c'est dit que l'homme, pour sauver sa vie, il est prêt à tout donner. Alors, pour lui, sa vie, c'est la valeur suprême. Disons que vous seriez millionnaire, que vous auriez des enfants, vous auriez toutes sortes de biens, puis si quelqu'un dirait « Tu me donnes tout ça ou je te tue », bien, tu dirais « Ok, prends-les ». Ta vie est quelque chose. Alors, la terreur de la mort, ça terrorise tout être humain. Les seuls qui ne sont pas terrorisés par la mort, on a eu un exemple ici récemment, quelqu'un qui est... comment il s'appelle, non, monsieur? Richard Thibault. Un chrétien. Puis, au moment de sa mort, semble-t-il qu'il a traversé sa vie, il a traversé sa mort avec beaucoup de sérénité. Pourquoi? Alors que d'autres... Quand ils vont arriver au moment de la mort, ils vont être littéralement terrorisés. Parce qu'ils savent qu'ils sont aveugles. On dirait que Dieu donne à l'être humain la notion qu'il est aveugle de mourir. Et si quelqu'un est prêt, qui est en paix avec le Seigneur, qui s'est réconcilié avec Dieu, qui sait qu'il place sa foi en Jésus-Christ, comme Jésus-Christ a fait, a pris sa punition à sa place, il croit véritablement que tous ses péchés ont été payés, mais que c'est qu'un autre qui l'a payé, c'est Christ, et en plus, il croit que les exigences que Dieu avait envers lui, la parfaite obéissance à la loi, que personne n'a jamais fait, si tu places ta foi en Jésus-Christ, ben tu sais que la justice, quand on appelle la robe de justice de Christ, c'est qu'on est revêtu de la justice de Christ, ça veut dire que aux yeux de Dieu, quand on croit en l'œuvre et en la personne de Jésus-Christ, on est convaincu que non seulement nos péchés ont été payés par Christ, mais que les exigences que Dieu avait pour chacun d'entre nous, pour l'obéissance à la loi, c'est un autre qui l'a fait encore. Alors, pourquoi il part en sérénité, le chrétien? Normalement, un chrétien qui est en santé spirituelle, quand il va arriver le moment de sa mort, il va partir en douceur, puis il va partir avec le sourire, puis il va partir, il n'a pas peur. Pourquoi il n'a pas peur? Parce qu'il est convaincu qu'au moment où il va traverser il va arriver devant le grand juge, il est prêt. Sinon, il serait terrorisé comme la plupart des hommes. Alors, quand on regarde... Cette rencontre avec la mort-là peut être prématurée, c'est ça qu'il est en train de dire. Ce qui faisait sa confiance est arraché de sa tente, il est forcé de marcher. Il est forcé de marcher vers le roi des terreurs. Il est en train de parler du pécheur qui s'enracine dans son péché. Il est forcé de marcher vers le roi des terreurs. Il est en train de dire que, dans le fond, quelqu'un qui s'enracine dans le péché, Dieu va le pousser vers le roi des terreurs. C'est épeurant. Et on sait que quand on arrive devant la mort, c'est irrésistible, c'est impitoyable et ça nous pousse vers le jugement divin. Ceux qui ne sont pas préparés et réconciliés avec Dieu ont raison d'être terrorisés de ce moment solennel qui engage toute l'éternité.
Troisième arme qu'il utilise, c'est celle de la répulsion, versets 15 à 21. Tous les êtres humains veulent laisser une marque de leur passage sur la terre. D'accord avec ça? Ils veulent aussi une descendance. Ils veulent aussi un bon souvenir de leur passage sur la terre. N'est-ce pas qu'on aimerait que les gens se souviennent de nous autres? Ah oui, Marcel, ah oui, c'était un bon gars, ça. On a une descendance. Et c'est ça qu'on veut. Qu'on le dit, qu'on l'avoue pas, c'est ça qu'on veut. Alors, on veut que les êtres humains font beaucoup d'efforts pour laisser une marque sur leur terre, sur la terre. Il y en a qui ils vont faire n'importe quoi pour que le monde se souvienne d'eux. Alors, le fait ici d'évoquer à Job que sa mort pourrait ne laisser sur la terre que de mauvais souvenirs, de ne pas avoir de joie de voir sa lignée se prolonger, et que son nom devienne synonyme d'infamie, se veut l'argument massue pour tenter de raisonner Job. Autrement dit, il finit par le gros, il prend la masse et là, il dit, là, tu vas l'avoir. L'arme de la répulsion. Il veut lui montrer, et il faut se replacer dans le contexte d'une famille orientale. Une famille orientale, pour eux, quelqu'un qui n'avait pas de descendance, c'était un signe de la malédiction de Dieu. Alors, c'était important pour eux d'avoir cela. Alors, dans les versets 15 à 18, il veut lui dire que le pécheur qui s'enracine dans le péché, sa famille va être ruinée et sa succession va être ruinée. Versets 15 à 18, « Nul des siens n'habite sa tente. » On sait qu'on dans ce temps-là, c'était des tentes, mais c'est comme s'il dirait « Nul des siens n'habitera sa maison. » Le soufre est répandu sur sa demeure. En bas, ses racines se dessèchent. En haut, ses branches sont coupées. Sa mémoire disparaît de la terre. Son nom n'est plus sur la face des champs. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres. Il est chassé du monde. Alors, il est en train de vouloir dire à Job, « Si tu ne te repens pas, voici ce qui t'attend. Ta maison est faite, t'es faite à l'os. Ta famille, tu n'auras plus de famille, tu n'auras plus de succession. » Les étrangers vont accaparer tes biens et on ne se souviendra plus, même plus de toi sur la terre. Verset 19, pour les orientaux, c'était le comble du malheur de ne pas avoir de descendance. Verset 19, il dit, il ne laisse ni descendants, ni postérité parmi son peuple, ni survivants dans les lieux qu'il habitait. La continuation de la lignée familiale était l'un des désirs les plus intenses pour les orientaux. Voir sa lignée se perpétuer était le signe d'une bénédiction divine. Et l'inverse, bien entendu, était le signe d'une malédiction. Et dans le verset 20 et 21, il va aller du côté, alors il dit, tu vois, ta famille, ta succession va être ruinée, tu n'auras pas de descendance, et il termine en parlant de son nom, qui va être déshonoré. Il dit, versets 20 et 21, « Les générations à venir... » Voyez-vous, il n'est pas en train de dire « Les gens autour de toi vont garder un mauvais souvenir de toi. » Il dit que même les générations qui vont plus tard vont être étonnées de sa ruine et la génération présente sera saisie d'effroi. Autrement dit, il est en train de parler du présent. Parce qu'il dit « La génération présente sera saisie d'effroi juste au souvenir de ton nom. » Puis, les générations à venir, il est en train d'y faire voir que son nom va être un synonyme de vraiment effroi. Et dans le verset 21, il dit « Point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. » Il termine-tu par l'argument massu ou non? Un supposément croyant qui s'adresse à un autre qui se dit croyant, et il dit, il n'y aura pas d'autre sort que ça pour celui qui ne croit pas Dieu. Il est en train de laisser sous-entendre à Job qu'il n'est pas un croyant. Point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Puis il termine comme ça. Ça, c'est sa conclusion. Quand on disait que c'était des armes fortes qui utilisaient des arguments massus pour essayer de convaincre Job, on le voit très, très clairement. Nul être humain normal ne veut que son nom et sa réputation soient traînés dans la boue, méprisés et rappelés avec horreur, étonnement et dégoût. Qu'il nous suffise de nous rappeler le nom de Judas pour s'en convaincre. L'autre jour, on parlait des prénoms qu'on donnait à nos enfants. Il y en a qui disent, est-ce qu'il y en a qui ont déjà appelé leur enfant Judas? Au Québec, c'est défendu de donner des noms comme Satan ou Judas à ton enfant. Ils ont passé une loi, là. Mais je sais que ça existe parce qu'il y a du monde qui sont assez... Je trouve rarement le mot là, pour dire qu'une personne qui va appeler son fils Satan, c'est pas fort dans son esprit. Ou quelqu'un qui va appeler son enfant Judas. Alors qu'on sait que pour le monde, le mot Judas... Voyez-vous, ça fait 2000 ans que c'est passé, puis pour nous, le nom de Judas, c'est encore négatif. Alors, c'est ça qu'il est en train de dire à Job. Ton nom, là, dans les générations présentes, dans les générations à venir, ça va être un synonyme d'effroi. Si on va dans Acte 1, verset 18 à 20, alors ici, on parle de Judas. « 17 hommes, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue à celle d'Ama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes, regardez ce qui est dit, que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Autrement dit, le nom de Judas, à tout jamais, si le Seigneur retarde encore 1000 ans, bien dans 1000 ans, Judas, ça va être aussi négatif que ça l'est actuellement. Ça l'a toujours été, ça va se perpétuer. Et c'est ça qu'il est en train de terminer en lui disant ça. Pour un gars comme Job, qui avait été le plus prospère de l'Orient, le plus riche, le plus respecté, le plus tout ce que tu voudras, se faire dire, si tu ne te repens pas, ton nom... va devenir comme l'équivalent de celui de Judas. C'est fort comme argument. Les hommes de tous les pays et de toutes les époques garderont un souvenir macabre de son nom. C'est ça qui est en train de... Quand on va voir le psaume 34, verset 16, ça dit « L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. » C'est sévère, hein? Quelles sont les applications qu'on peut faire du texte d'aujourd'hui pour notre vie aujourd'hui de tous les jours? Oui, je dirais la première, prions le Seigneur de nous donner le contrôle de nos langues lorsque nous sommes accusés injustement. Ça se peut-tu que même aujourd'hui encore, il y a des personnes qui vous accusent injustement? Mais quand quelqu'un nous accuse injustement, sachons qu'il faut demander de la sagesse à Dieu avant de répondre. Parce qu'on peut vite faire comme Bildad et déraper complètement. Et au lieu de répondre intelligemment, tu ajoutes à l'escalade verbale qui peut se passer. Donc, la première application, faisons attention quand on est émotivement dérangé, la manière dont on répond aux autres. Parce qu'on peut vraiment tomber dans le péché. Deuxième application, méditons sur les vérités de la rétribution du péché par le Seigneur, et ceci même sur la terre. Est-ce que le Seigneur peut rétribuer quelqu'un pour son péché même sur la terre? Ben oui. Mais soyons extrêmement prudents dans l'interprétation que nous donnons aux épreuves des hommes et des saints. Ça, je vous le dis, je l'ai déjà vu dans des églises. Quelqu'un qui traversait une période difficile. Ah! Je sais, moi, pourquoi il vit ça. C'est parce qu'il y a sûrement du péché dans sa vie. Est-ce qu'il savait s'il y avait du péché dans la vie des personnes? Il ne savait même pas. Alors, c'est la preuve que le péché de Bildad, on peut le commettre nous aussi. Il faut faire attention de la manière dont on interprète les épreuves des autres, des hommes en général et des saints aussi. Troisième application, que le Seigneur nous donne les joies rattachées à la famille nombreuse, à une descendance bénie et fructueuse et à une réputation solide et durable. N'est-ce pas, c'est ça qu'on veut? Famille nombreuse, on laisse beaucoup d'enfants derrière de nous. Et ces enfants-là sont élevés, ils vont bien, ils sont tous bien placés. Ils sont sauvés en plus. Ah ben là. En plus, là, nous, on meurt, puis on laisse dans la ville dans laquelle on est né, qu'on a vécu, une bonne réputation, ou dans le milieu dans lequel on a été. Ah, quand on se rappelle d'un tel, ça c'est bien. C'est bien, notre nom est synonyme de bien. Mais quand notre nom est synonyme de mal, notre nom est synonyme de toutes sortes de choses négatives, on n'aime pas ça. Puis personne ne se devrait d'aimer ça non plus, parce que si on se réjouit là-dessus, c'est parce qu'on a un déséquilibre à quelque part. Alors adorons notre grand Dieu pour sa sagesse infinie dans la direction de nos vies.